Cette année, GMF était le numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance. C'est aussi ça, être assurément humain. Et en ce moment, profitez de 3 mois offerts pour toute souscription de contrat habitation jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Enquête 2026, Bearing Point et Kantar, conditions de l'offre sur gmf.fr.
Franck Leboeuf en studio pour des pronos entre deux estimations de bagnole. Mais non, vous avez préféré inviter Karim Bouamran. Rien de personnel, hein, mais quand j'ai vu votre nom, je me suis dit « Et allez, encore de la politique, ils peuvent pas s'en empêcher les deux hein. !» Et finalement, c'était pas une mauvaise idée, car après des mois de vaines tentatives par l'attaquant de l'équipe de France Inter, 4 matchs perdus face à Gabriel Attal, une défaite contre NKM et un poteau sortant hier avec Laurent Berger.
Ça veut dire que, à tous ceux qui se posent la question d'un éventuel recours Laurent Berger en vue de 2027 pour la gauche réformiste, vous leur répondez quoi? Que vous n'y pensez pas, que c'est pas la solution?
Je réponds tout simplement que j'ai pas changé d'avis.
Eh ben ce matin, je sais pas pourquoi, j'avais une intuition. Dès le bonjour, j'ai senti que tant sur le plan tactique que technique, il y avait moyen, car vous n'êtes pas là pour la préface d'un livre de recettes sur les 100 façons de préparer le poulet. Non, attendez, il est 7h50, une seconde d'interview, second poteau Boisbert. Ça y est, il l'a fait. Sur une passe décisive, Benji remporte sa deuxième annonce de candidature à la présidentielle à son micro. Je crois qu'après avoir eu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Oh putain, quel pied! Faites-moi péter des feux d'artifice depuis le toit de la maison de la radio. Accrochez-moi une bâche géante à l'effigie de Benjamin sur l'Arc de Triomphe. Arrache mon col roulé, dévoilant un t-shirt en tout dernier mot à 7h59. Mais gaffe aux glissades sur les genoux, la moquette ça accroche. Il l'a fait, mon champion. Pardon Karim, je m'emporte, mais je l'aurais vécu. Et vous, vous envisagez quoi comme célébration si vous gagnez? Moi, je vois bien une statue géante dans la cour de l'Elysée. Vous seriez en armure avec un immense glaive en train d'embrocher 40 personnes et un galinacé. Karim Bouamran terrassant ses adversaires et le master poulet, ça claque. Puis le symbole, quoi. Vous êtes de l'aile droite du Parti Socialiste, selon Wikipédia, de centre-gauche, d'après ChatGPT, et très sympa, d'après Robert Ménard. On n'a pas connu aussi rassembleur depuis France 98. Bon match en 2027 à vous. Bravo Benji encore pour cette victoire. Et moi, je vous dis à demain, car il me reste encore 3 semaines de jeu. Comment ça, sans temps additionnel? Bon, tant pis.
Merci Bertrand Chamerand. Vous écoutez la grande matinale d'Inter. Il est déjà 8h02. Et c'est le journal d'Hélène Philly, bonjour.
Bonjour à tous. Le risque d'une fracture entre les citoyens et leur justice après la mort de Liana, des milliers de personnes sur les marches des palais hier soir partout en France. Témoignage d'une mère dans ce journal, indignée que l'agresseur de sa fille n'ait toujours pas été entendu. 2 ans après la plainte, le gouvernement cherche une réponse. La paix est-elle inatteignable au Moyen-Orient? Les hostilités ont cessé entre l'Iran et Israël, mais les frappe continue sur le Liban.
Et à 8h20, question sur la guerre au Moyen-Orient. Elle n'est pas terminée, on le voit tous les jours de fait au Liban. Hier, entre l'Iran et Israël, Donald Trump a-t-il perdu la main sur son allié israélien? Réussira-t-il à conclure un accord avec l'Iran qui n'a pas perdu, lui, son pouvoir de nuisance? On en parle avec 2 experts ce matin, Amy Green et Thomas Gomard, invité du Grand Entretien. Avec vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France.
Nous sommes aussi en Ukraine, dans un instant sur le front Est, des robots sur le front, le très long confinement de cas contact à l'antivirus en France, le photovoltaïque qui fait les frais de la baisse des aides pour les particuliers, et puis la passion foot, ce n'est pas que pour les hommes, nous serons au Mexique où les supportrices tentent de se faire une place.
France Inter.
Combien sont-elles les victimes qui attendent de voir leur dossier avancer, leurs agresseurs entendus? La mort de Liana aurait-elle pu être évitée si les enquêtes allaient plus vite, alors que le principal suspect faisait l'objet de plusieurs plaintes pour viol? Justice, réveille-toi! On criait des milliers de personnes hier soir sur les marches des tribunaux, et c'est aussi l'appel de cette mère dont la petite fille a dénoncé un viol il y a 2 ans. L'homme qu'elle accuse est le compagnon de sa grand-mère. Il n'a toujours pas été entendu. Delphine Evenou a recueilli leurs témoignages.
Dans cette famille unie, la semaine a été douloureuse.
Évidemment, ça remue énormément.
Sonia est la mère de Léa.
Mais surtout, ça révolte. Quand on entend qu'il y a des plaintes qui n'ont pas été prises en considération, qui ont été classées sans suite.
Alors jeudi, elle a écrit son désarroi à l'enquêtrice chargée du dossier, qu'elle relance régulièrement depuis près de 2 ans.
C'est toujours la même réponse. Je ne peux pas vous donner de délai. Je ne peux pas m'engager sur une date précise.
Léa a aujourd'hui 11 ans.
J'arrive
pas trop à dormir. Je fais que de penser à ça.
Elle attend que son agresseur présumé s'explique enfin devant la police.
J'attends qu'on l'interroge et que ça se finisse. Au moins, on tourne une page.
Mais sa mère sait que le chemin sera encore long.
Et après, on va devoir encore attendre? Un an, deux ans? Ma fille, elle va avoir quel âge quand il va y avoir ce procès? Ils peuvent pas se reconstruire comme ça. On a besoin d'être devant une autorité judiciaire et d'avoir des vraies réponses.
La brigade de protection des mineurs a de plus en plus de dossiers, explique la préfecture de police de Paris. Anne-Sophie Charrieras, l'avocate de Léa, le sait bien.
Effectivement, on se retrouve à un point de blocage avec des services qui n'ont pas la capacité de pouvoir mobiliser les personnes nécessaires pour procéder aux investigations techniques, mais également aux mesures coercitives comme des placements en garde à vue.
Elle espère que la revue de tous les dossiers de mineurs réclamés par le garde des Sceaux permettra une nouvelle étape dans la plainte de Léa.
Pour qu'au séisme des violences sexuelles ne répondent pas à l'impuissance publique, des milliers de personnes s'étaient donc donné rendez-vous devant les tribunaux de quelques 200 villes de France hier soir. Le prénom de Liana sur toutes les lèvres. La révolte encore, ici dans la voix de l'animatrice Flavie Flamand.
Il faut remettre ce monde qui est à l'envers, il faut le remettre à l'endroit. Et ça passera par des manifestations, par des indignations, par des colères comme celles que l'on peut voir aujourd'hui et qui disent « ça suffit ». Encore une petite fille, encore un enfant assassiné. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas écouté les paroles des victimes. Et parce qu'à un moment donné, on laisse des violeurs dans la nature. Et ce mouvement-là, il est important, il est essentiel parce que la société s'indigne et qu'on sent les coutures, là, vous voyez, qui sont en train de péter, quoi. Il faut qu'il y ait des manifestations comme celle-ci parce que c'est par ces bénévoles, ces gens qui s'indignent que les choses changeront.
Flavie Flamand dans le Rassemblement parisien et dont la voix a porté ces dernières semaines sa plainte contre Patrick Bruel en a entraîné d'autres. Le chanteur est en garde à vue depuis hier. Elle vient d'être prolongée de 24 heures. Face à tout cela, le gouvernement se retrouve donc sommé d'agir plus largement. Bonjour Jérôme Val du service politique de France Inter. Jérôme, le Premier ministre reprend la main alors que le garde des Sceaux Gérald Darmanin se retrouve fragilisé.
Oui, comme pour desserrer l'étau autour de son ministre de la Justice, une nouvelle fois entendu ce matin en urgence devant le Sénat en compagnie de son collègue de l'Intérieur Laurent Nouniès, et alors que la pression sera sans doute maximale cet après-midi lors des questions au gouvernement. Donc Sébastien Lecornu a écrit hier soir à 5 de ses ministres avant de les réunir tout à l'heure en fin de matinée à Matignon pour montrer, nous explique l'entourage du Premier ministre, qu'il agira avec sérieux, gravité et dignité, car c'est une cause, la protection des enfants, qui dépasse tout.
Et que propose-t-il Sébastien Lecornu ?
Eh bien, deux choses. Un, le projet de loi sur la protection des enfants sera modifié avec des mesures supplémentaires comme l'aggravation des peines en cas de viol sériel ou la modification des règles de prescription. Deux, la proposition de loi intégrale soutenue par une large majorité de députés sera, elle, examinée le plus rapidement possible, sans doute à la rentrée de septembre. Le Premier ministre qui prend soin de préciser que les crédits de 5 ministères concernés, justice, intérieur, santé, éducation, égalité, femmes-hommes, seront préservés dans le futur budget pour être ciblés sur 7 priorités, conclut Sébastien Lecornu dans son courrier.
Merci beaucoup Jérôme Val, service politique de France Inter. Hier soir, les députés ont par ailleurs validé le compromis proposé par le gouvernement sur la mesure phare du projet de justice criminelle voulu par Gérald Darmanin, le plaidé coupable, le garde des Sceaux ayant accepté de retirer les crimes sexuels du périmètre de la mesure, très décriée par les avocats car risquant de priver les victimes de procès.
8h08 sur Inter, voici la lourde facture des rendez-vous chez le médecin.
Combien payez-vous votre cardiologue ou votre dermato, désormais majoritaire, ces spécialistes, à pratiquer les dépassements d'honoraires installés en secteur 2, rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui propose ce matin différents scénarios, Victor Dolande, pour faire baisser les tarifs.
Aujourd'hui, vous avez un risque sur deux de devoir payer plus cher que le tarif de l'assurance maladie en vous rendant chez un spécialiste. En 2040, près de 90% des spécialistes seraient en secteur 2 si on suit le même rythme.
Ça, c'est pas entendable pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de choix de pouvoir être soigné au tarif de la sécurité sociale.
Férouz Aziza est conseillère nationale chez France Assos Santé qui regroupe une centaine d'associations de patients.
L'accès aux soins, c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit à la santé. Et en plus, ceux qui ont les déterminants sociaux, je dirais, les plus défavorables, sont ceux qui ont le plus besoin de soins, puisque c'est eux qui ont l'état de santé le plus aggravé. Donc en fait, si on reste sur un système comme ça de médecine à deux vitesses, ça veut dire que ceux qui ont le plus besoin de soins, finalement, ils sont laissés sur le carreau.
Près de 75% des jeunes médecins diplômés s'installent en secteur 2, c'est trop selon France Asso Santé.
Donc ça, il faut juguler ça et ne pas permettre que les 3/4 des spécialistes aujourd'hui, et 80% demain et 100% après-demain, soient en secteur 2. Donc il faut déjà limiter cet accès-là, plafonner évidemment les dépassements d'honoraires, c'est-à-dire mettre une limite maximale dans le droit.
Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie imagine 3 scénarios pour essayer de limiter ces dépassements d'honoraires, allant même jusqu'à les interdire.
Le prix à payer d'un autre genre pour ces 4 Français descendus du bateau de croisière Andus il y a près d'un mois maintenant, le bateau foyer d'Antavirus qui a fait la une dans le monde entier. Les cas contacts se sont retrouvés confinés dans des conditions très strictes, particulièrement en France. Ils sont 4 à l'hôpital Bichat au nord de Paris et doivent encore y rester cloîtrés 12 jours. Béatrice Duguay a pu joindre 2 d'entre eux.
Jour particulier pour Roland Sêtre.
C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'aurais préféré le passer ailleurs que dans une chambre.
Une chambre d'une vingtaine de mètres carrés pour 2, où les fenêtres ne s'ouvrent pas, où la porte est calfeutrée de scotch pour éviter toute contamination. Précision paradoxale, elle n'est pas verrouillée.
On nous a demandé de respecter l'enfermement, mais on n'est pas en prison.
Si on voulait, on pourrait sortir et ça fait une différence.
Il nous a été dit 3 jours de confinement et après vous ferez un confinement à la maison. Et c'était tout à fait sensé.
Sauf que les 3 jours du début sont devenus 30, la promesse de réévaluation s'est envolée, quand bien même les spécialistes des maladies infectieuses réunis par le ministère de la Santé seraient d'accord pour cela.
Il y a quand même un impact sur le corps, il y a un impact sur le psychisme, il y a des anniversaires qui passent, il y a des mariages qu'on rate, il y a des choses comme ça. Mais il y a plus le sentiment d'inégalité qui joue. Pourquoi nous, pourquoi pas les autres ?
Les Anglais, les Hollandais, les Belges, les Allemands, ils sont confinés chez eux depuis le départ. Et pourquoi les Français, c'est pas pareil? Il y a quoi de différence médicale?
Julia et Roland Sêtre, rationnels et disciplinés, se contentent d'une bouffée d'air quotidienne de moins d'une heure dans la cour avec masque et distance de sécurité, de prélèvements 2 fois par semaine, tous négatifs. La vraie vie manque. Bien sûr.
On a envie de prendre un peu plus l'air et de pouvoir faire un peu plus d'exercice que les 150 mètres autorisés dans l'enceinte de l'hôpital. Et on a évidemment envie de serrer nos enfants et notre petite fille dans nos bras.
Mais Julia et Roland Sêtre ne demandent pas encore à rompre l'isolement, juste à l'observer strictement chez eux.
L'avocat du couple a saisi hier après-midi le juge des libertés pour demander le confinement à domicile.
L'Iran a cessé ses frappes.
Mais il a montré hier qu'il était loin d'être vaincu, capable de menacer Israël s'il a la guerre contre le Hezbollah libanais poursuit. 14 personnes ont encore été tuées hier dans le sud du pays. Les négociations sautent au point mort. Les appels à la retenue de Donald Trump, le président américain, ignorés. En Ukraine, des frappes ont fait 3 morts et une dizaine de blessés cette nuit à Kharkiv, le front est de la guerre contre la Russie, où se trouvent nos envoyés spéciaux. Un front où les hommes laissent de plus en plus leur place aux machines, les drones, mais aussi les robots, cantonnés à des tâches logistique, la livraison de matériel, de nourriture, les évacuations de militaires ou de civils, des engins comme des quads sans pilote et gérés à distance. C'est le reportage signé Isabelle Labéry.
À Kharkiv, nous avons retrouvé Alina Andrivna, 85 ans, évacuée il y a 2 semaines de sa maison près de Vovtchansk où les combats font rage.
On m'a fait sortir sur une civière et puis dans une machine. J'étais allongée, ça secouait beaucoup.
C'est un fantassin qui a hissé la vieille dame sur le plateau du robot avant de repartir au combat. Le reste, c'est lui qui a géré. Le sergent-chef Volodymyr Tchernenko, opérateur de la 57e brigade, avec son joystick et son écran à 20 km du front.
J'avais pas le droit à l'erreur. Le passage faisait pile la largeur du robot. Trop à gauche et le robot tombait dans le vide avec la mamie.
La mamie n'est pas tombée, elle a même parcouru 10 km sur le robot. Évacuation, ravitaillement, ces véhicules sans pilote sont toujours testés avant d'être envoyés au front.
Il fait 370-400 kilos. On l'a assemblé il y a 2 jours. Il est en essai de roulage.
Et l'armée s'adapte. Il y a 3 mois, Nazar et Maxime étaient encore dans l'infanterie. Aujourd'hui, ils s'occupent exclusivement des robots.
Le mois dernier, on a fait 40 missions. À la guerre, tout va très vite. Mais c'est ça la guerre d'aujourd'hui. On est déjà dans le futur et si tu es flexible, tu vas y arriver, ce sera cool.
Mi-avril,
l'Ukraine a d'ailleurs annoncé la prise d'une position russe uniquement à l'aide de robots terrestres et de drones.
Reportage France Inter sur le terrain, signé Isabelle Labéry avec Marc Garvenès et Yachar Fazilov. En matière de défense, les dépenses des grandes puissances augmentent pour muscler leurs arsenaux nucléaires. 120 milliards de dollars l'année dernière. C'est le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. 20% de plus que l'année précédente. Le photovoltaïque va-t-il faire les frais de la baisse des aides quand vous installez des panneaux solaires sur votre toit et que vous revendez à EDF le surplus d'électricité, ce que vous ne consommez pas? À partir de maintenant, pour les nouveaux contrats, le prix de rachat ne sera plus que d'un centime le kilowattheure. Évidemment, c'est un tournant pour le secteur photovoltaïque réuni en colloque national aujourd'hui à Strasbourg. Alexis Morel.
En 2 ans à peine, l'État a divisé par 12 le tarif de rachat de l'électricité produite par les particuliers. La revente n'a donc aujourd'hui plus d'intérêt pour ces ménages. Pour que leur installation reste très rentable, ils doivent donc éviter le surplus et autoconsommer au maximum l'électricité produite sur leur toit. David Gréau, délégué général d'Enerplan, le syndicat de la filière solaire.
Le ménage, il faut qu'il arrive à optimiser cette autoconsommation. Par exemple, déclencher le chauffe-eau au moment où il y a de la production solaire. Ça va être aussi la voiture électrique pour qu'elle se charge pendant les heures solaires. Ou se donner les moyens pour stocker cette électricité, donc mettre des batteries dans le garage.
Mais cela nécessite évidemment beaucoup plus d'implication dans la gestion de sa consommation quotidienne. Certains foyers seront alors tentés de continuer malgré tout à vendre leur électricité, mais en passant par des acteurs privés. Ils proposent des prix de rachat beaucoup plus attractifs que le tarif public. C'est toutefois risqué, prévient le médiateur de l'énergie. Bernard Dorozuc voit les litiges se multiplier, à tel point qu'une entreprise du secteur vient de se voir retirer son autorisation d'achat.
C'est un acheteur qui a eu un comportement inacceptable et qui n'a pas payé quasiment tous ses clients en 2025.
Le médiateur appelle donc à encadrer davantage ce secteur privé de la revente d'électricité solaire.
Alexis Morel, c'est le premier test social de Jean Castex à la tête de la SNCF. Grève de 24 heures sur les rails à partir de ce soir, 20 heures. Les 4 syndicats représentatifs de la SNCF réclament un moratoire sur l'arrivée de la concurrence. Un TGV sur 3 restera à quai demain, un intercité sur 2 et le trafic régional sera fortement perturbé.
Ça y est, les Bleus sont fin prêts.
L'équipe de France s'est rassurée hier soir. Victoire face à l'Irlande du Nord 3-1. C'était le dernier test avant le Mondial. Et on décolle ce matin pour le Mexique, l'un des 3 pays hôtes. Celui qui respire le plus le foot. Et encore, ça ne vaut que pour les hommes, en tout cas moins pour les femmes, encore tenues éloignées des stades. Certaines tentent tout de même de se faire une petite place dans le monde du ballon rond. Emma Sarogo et Johanna Gabric sont à Mexico.
Leurs maillots sont toujours violets, la couleur du féminisme, et leur chant bien reconnaissable.
On a transformé les cantiques du foot, généralement machistes et violentes.
Luz Rodriguez a 41 ans. Elle est l'une des fondatrices de la Barra Feminista, la section féministe. Chaque week-end, elles sont entre 30 et 100 à se déplacer dans les stades, peu importe qui joue.
C'est un espace pour les femmes, pour toutes celles qui veulent aller dans les stades dont on nous avait chassés pour des questions de genre et des stéréotypes.
Le Mexique fut pourtant le deuxième pays à accueillir en 1971, un mondial féminin, mais trop tôt, non reconnu à l'époque par la FIFA. Et alors que débute celui des hommes, Luz est à la fois impatiente et inquiète.
Les femmes vont s'occuper des enfants, préparer les repas pour ceux qui viennent voir les matchs, pour que les hommes profitent, eux, de l'événement. Le fameux « je te demande une semaine tous les 4 ans, tu peux quand même m'accorder ça ».
Depuis 1 an et demi, le Mexique a une présidente, la première, qui il y a quelques jours a présenté un hymne du mondial. L'histoire d'une petite fille exclue des terrains de foot, mais qui enfin parvient à jouer.
Reportage signé Emma Sarango. Et puis le sport, c'est aussi le basket. Les Spurs de Victor Wembanyama se relancent cette nuit en remportant le 3e match de la finale de la NBA qui les oppose aux Knicks de New York, 115-111. La finale qui se joue au meilleur des 7 matchs.
Merci, c'était le journal d'Hélène Philippe. Place à la météo.
La météo avec CNP Assurance. Jour après jour, avec CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert.
Céline Dacosta, on perd quelques degrés et on l'a bien senti ce matin.
Oui, c'est vrai, surtout sur le nord-ouest où la moyenne elle est de 8 à 10 degrés. On le sentira aussi cet après-midi, ou à part près de la Méditerranée où là on aura encore 24 à 29 degrés, on va perdre quelques degrés. La moyenne ira de 16 à 22 du nord au sud et ça baissera encore demain, qui devrait être la journée la plus fraîche de la semaine. Alors fraîcheur toute relative, hein, c'est surtout pour souligner que les températures sont un peu justes pour ce mois de juin. Et puis surtout, ça va remonter en fin de semaine, on va retrouver des températures estivales.
Et puis il reste quelques averses ce matin.
C'est la perturbation d'hier qui s'évacue par l'est avec un ciel couvert, encore un petit peu de pluie entre l'Alsace, le Jura, le nord des Alpes, vers l'Auvergne et les Pyrénées. Près de la Méditerranée, c'est déjà ensoleillé. Et puis des éclaircies, on en aura également sur le reste du pays ce matin. C'est juste un petit peu plus mitigé sur les côtes de la Manche où un ciel de traîne progresse. Le ciel de traîne, on connaît le principe, il arrive après la perturbation, éclaircies, nuages, averses. Là, on rajoute de bonnes rafales de vent qui vont gagner dans l'après-midi toutes les régions de la Bretagne, Pays de la Loire vers les Hauts-de-France en passant par la région parisienne. Ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages éclaircis dans une ambiance qui sera un petit peu plus sèche.
Merci Céline Dacosta et voici Pierre Aski, géopolitique.
Sur France Inter.
Bonjour Pierre.
Bonjour Florence.
Vous revenez sur l'échec du projet d'avion de combat franco-allemand.
C'est un échec à la fois politique, industriel et symbolique. L'abandon du SCAF, l'avion de combat du futur que la France et l'Allemagne devaient concevoir et produire ensemble, vient illustrer la difficulté de construire une industrie réellement européenne de la défense quand les intérêts industriels et les rivalités nationales perdurent. C'est l'Allemagne qui a finalement débranché le projet à 100 milliards d'euros après des années de conflits entre industriels des deux rives du Rhin que les gouvernements successifs n'ont jamais réussi à surmonter. Dassault côté français et la branche militaire d'Airbus en Allemagne s'opposaient sur la maîtrise d'œuvre, sur les droits de propriété intellectuelle et sur à peu près tout. Jusqu'au bout, les Français ont cru que la volonté politique permettrait de surmonter ces divergences. Vu de Paris, le fait que ce soit la commande publique qui permette au projet d'exister devait l'emporter sur les réticences et la mauvaise volonté des industriels privés. Mais vu de Berlin, ce projet, né sous le règne d'Angela Merkel, était devenu impossible. L'Allemagne fait porter le chapeau à Dassault, qui a l'arrogance du succès du Rafale, tandis que Paris met l'accent sur la responsabilité allemande et ses ambitions industrielles.
Mais de quoi cet abandon est-il le nom, Pierre ?
Alors, cet échec survient paradoxalement au moment où la construction d'une industrie de défense européenne est au centre des préoccupations, à la fois en conséquence de la guerre russe en Ukraine et du comportement de l'Amérique de Trump. Or, le SCAF était le projet le plus important d'Europe. L'Espagne avait d'ailleurs rejoint la France et l'Allemagne. Il est d'abord révélateur des différences nationales. Au début des problèmes autour du SCAF, un haut responsable français m'avait confié ce constat. Lorsque les Français lancent un nouvel armement, ils pensent à l'usage, les Allemands aux usines. Deux cultures qui pourraient être complémentaires, mais qui se sont révélées difficilement conciliables. Mais ce n'est pas la seule explication. À Paris, on observe une tendance au cavalier seul allemand sur plusieurs sujets industriels en matière de défense, un appétit rendu croissant avec la hausse spectaculaire des investissements.
Avec quel objectif, Pierre ?
Alors, à partir de 2029, Florence, le budget de la défense allemand sera le double de celui de la France, 150 milliards d'euros contre 75 milliards. Il doit permettre à l'Allemagne de devenir la première puissance militaire d'Europe, y compris dans sa dimension industrielle, moins le nucléaire qui reste l'apanage de la France. Parmi les projets où l'Allemagne se lance seule, même lorsqu'il existe des réponses européennes, figure une constellation de satellites de communication et le lancement de fusées. Il s'agit moins de fait de puissance militaire que d'envergure industrielle à un moment où le modèle économique allemand est fragilisé par le changement d'environnement mondial. La France qui avait fait de sa puissance militaire et de son industrie de défense son principal atout au sein de l'UE se voit défiée par son partenaire allemand. C'est là que le SCAF prend une dimension symbolique forte, à laquelle s'ajoute l'investissement personnel d'Emmanuel Macron sur ce dossier. L'Europe n'avait vraiment pas besoin de cet échec.
Merci Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien avec Amy Green et Thomas Gomard.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi sur France Inter, D'ici en concert chez vous.
20h. Midi Maisy.
En tournée dans toute la France pour présenter son dernier album On s'en rappellera pas, D'ici passe par la scène du studio 104 de la maison de la radio et de la musique.
Je suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Je suis comme un condensé mélodrame. Ça fait si mal, alors que ça fait pas longtemps.
6 en live.
C'est ce soir à 20h sur France Inter.
Le CIC présente Chronique Entrepreneuriale.
Chef d'entreprise, je peux t'aider à prendre le lead sur le recrutement des best talents du marché avec un happiness management premium qui insufflera un esprit d'équipe ultra positif et efficient qui boostera l'appétence de tes employés pour leur job. Même nul.
Sinon, au CIC, on propose des solutions concrètes pour faciliter le recrutement des entreprises et la fidélisation de leurs employés. Par exemple, une offre de prévoyance et de santé collective qui les aide à faire face aux aléas de la vie.
C'est ça, construire pour que le monde bouge, CIC. Contrat de ACMIA RDSA et ACMVSA, entreprise régie par le Code des assurances, conditions en agence et sur CIC.fr.
Livre Inter 2026, les habitantes de Pauline Peyrade. Émilie habite ici et elle veut y rester à toute force. Sa maison, la nature, les animaux, les arbres, elle fait partie de cet endroit.
Habiter s'oppose à posséder, spéculer, envisager un lieu de relations physiques, affectives, toute la vie qui le constitue, le lieu est vivant.
Les jurés du Livre Inter se sont passionnés pour ce livre qui, dans une belle langue, nous parle d'habiter le monde. Les habitantes de Pauline Peyrade, Livre Inter 2026.
Il est 8h25.
France Inter, Benjamin Duhamel, Florence Paracuelos, la grande matinale.
Et un grand entretien pour comprendre ce matin ce qui se joue entre l'Iran, Israël et les États-Unis après les frappes d'hier. Rupture du cessez-le-feu suivie d'un retour au calme. La guerre n'est toujours pas terminée et l'équation se complique pour Donald Trump. Arrivera-t-il à conclure un accord pour mettre fin aux hostilités? La riposte israélienne marque-t-elle la perte d'influence des États-Unis? Deux invités pour nous aider à y voir clair ce matin, Benjamin.
Bonjour Amy Green.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter. Vous êtes politiste, spécialiste des États-Unis, experte associée à l'Institut Montaigne. À vos côtés, Thomas Gomard. Bonjour.
Bonjour.
Merci
Bonjour,
d'être avec
Bonjour,
nous. Directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Votre ouvrage, je le signale avec un titre évidemment d'actualité, qui contrôle qui, les nouveaux rapports de force mondiaux. C'est aux éditions Talendier.
Alors commençons par rappeler rapidement ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. Une trentaine de missiles iraniens tirés sur Israël en réponse à des frappes israéliennes sur un quartier général du Hezbollah au Liban. Réplique d'Israël sur l'Iran. Quelques heures de fièvre avant un retour au calme. Comment analyser cette séquence après deux mois de cessez-le-feu en pleine négociation pour un accord entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce que c'est un baroud d'honneur ou est-ce que c'est le début d'une reprise du conflit?
Thomas Gomard.
Je crois qu'il faut essayer de remettre les choses un peu dans un cadre chronologique parce que on est effectivement dans un commentaire au jour le jour par rapport à une situation qui se dégrade fondamentalement depuis le 7 octobre 2023. Alors je ne vais pas énumérer toutes les étapes, mais peut-être rappeler néanmoins qu'il y a un an, nous avons eu la guerre de 12 jours et qui a marqué une rupture dans la mesure où Israël a convaincu Donald Trump de frapper l'Iran. Et ça, je pense que c'est un point très important puisque l'Iran et Israël étaient en conflit ouvert depuis le printemps 2024. Mais ça, c'est la première rupture. La deuxième rupture, c'est la répression extrêmement virulente à laquelle on a assisté en Iran au mois de janvier. Et vous en souvenez, Donald Trump avait, au fond, s'était exprimé en disant « Nous allons apporter notre soutien aux manifestants ». Ça a été une répression extrêmement féroce et ensuite qui a donné lieu à l'intervention du 28 février où le premier jour, Israéliens et Américains tuent le guide suprême et son entourage. Et depuis lors, en fait, il y a eu un pari raté qui était de dire, en décapitant le régime iranien, au fond, il va s'effondrer. Mmh. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le régime iranien résiste, non seulement résiste, mais en plus s'est régénéré dans ses cadres et montre sa capacité à tenir en échec
donc,
les États-Unis.
C'est une démonstration de force à laquelle on a assisté hier avec l'Iran qui attaque Israël avec ce prétexte libanais d'aider son allié du Hezbollah.
Ça montre que effectivement le régime iranien continue d'exister. Il se renouvelle avec le nouveau guide suprême. Il n'est pas du tout accablé militairement. Donc effectivement, je pense que là on voit à la fois l'échec stratégique des États-Unis, le manque d'objectifs clairs et le fait qu'ils avaient peut-être sous-estimé la capacité du régime iranien à résister, y compris cette question que posait Thomas Gomard, le sujet qu'il posait à l'instant, c'est-à-dire qu'il penser qu'en décapitant le régime, que tout allait s'effondrer. Donc finalement, que ce soit sur le plan nucléaire, sur le plan de la chute du régime, aucun des objectifs stratégiques présumés des États-Unis n'est réuni aujourd'hui.
Et on va revenir bien sûr sur les conséquences de ce conflit qui dure sur Donald Trump, mais pour bien comprendre ce qui se joue en ce moment et la façon dont le Liban est au fond le point central, puisque l'Iran lie directement les pourparlers à la situation libanaise, puisque les gardiens de la révolution ont estimé, je cite, que les lignes rouges franchies à Gaza et au Liban équivalaient à une guerre directe, d'où cette reprise des frappes. C'est cette défense de l'allié libanais, c'est vraiment sincère. Comment est-ce qu'on explique que les gardiens de la révolution lient autant que cela le sort des pourparlers à ce qui se joue à Beyrouth?
Il faut bien comprendre que fondamentalement, les objectifs d'Israël et des États-Unis sont en train de diverger. C'est-à-dire que Israël est dans une logique avec Benjamin Netanyahou de constituer un glacis et d'essayer d'étendre son influence militaire au sud Liban, en réagissant au fond. Là aussi, je me réfère au 7 octobre, puisque après le 7 octobre, le Hezbollah avait frappé Israël à la suite des attaques du Hamas. Et donc, pour Israël, il y a cette idée, au fond, d'élargir le glacis et de profiter de cette situation pour traiter le maximum de cibles militaires sans jamais se soucier de la dimension politique. Ça, c'est tout à fait clair. En ce qui concerne les États-Unis,